Rebonjour à tous et à toutes, vous êtes toujours sur News FM et nous sommes toujours bien installés à la chaufferie. Je me présente, je m'appelle Isalia et avec moi pour mener cette dernière interview dans le cadre de la Biennale, j'ai nommé Simon.
Salut Isalia.
Notre dernier invité de l'après-midi, je pense que vous le connaissez. Maire de Grenoble depuis 2014, écolo et engagé, c'est une des personnalités montantes de la gauche écologiste en France. Donc, quel meilleur endroit que cette Biennale des villes en transition pour l'accueillir ? Bonjour Éric Piolle et bienvenue à la Biennale. Première question, est-ce que vous avez déjà pu assister à des événements, faire un tour ? Qu'est-ce que vous avez vu ?
Ah oui, j'en ai fait un paquet. La conférence inaugurale de Bruno Latour, bien sûr. La soirée inaugurale aussi, avec notamment la mairesse de Raqqa, Leila Mustapha, qui est assez impressionnante dans ce municipalisme qui a reconquis la ville sur Daesh. Hein, et donc c'est très, très impressionnant. Également un atelier de redirection écologique pour les entreprises hier soir. Ce matin, un temps avec des jeunes de Sfax, Ouagadougou, Essen, Shuzhou et Grenoble qui ont partagé pendant plusieurs semaines des projets dans ces cinq villes et une volonté de partage. Un temps avec le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, donc le numéro 2 de la Commission, avec là aussi, il y avait, plus de 400 jeunes qui nous posaient des questions. Bref, beaucoup de temps, un temps sur la santé environnementale hier matin. Voilà, donc je bouge beaucoup et là j'arrive des 20 ans du CLEPT à la Villeneuve, le collège lycée élitaire pour tous, où il y a un temps de réflexion et de conférence plutôt autour de l'école, l'éducation, la pédagogie.
Et vous n'avez pas fini de courir, je pense, jusqu'à demain. Ouais. Là, vous nous accordez un petit moment à News FM. On a pas mal de sujets à aborder. Moi, le premier que j'aurais aimé, la première question que j'aurais aimé vous poser, c'est que, voilà, vous savez mieux que personne que Grenoble est une ville en pointe sur les technologies, sur l'informatique, le numérique notamment, mais aussi sur l'écologie. C'est une ville phare en France. Moi, je me demandais comment est-ce que l'écologie et la technologie peuvent avancer ensemble ? Est-ce que les deux sont conciliables ?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'image que pouvait avoir la ville avant 2014, c'était petit à petit une image qui s'était réduite à une ville de high-tech, hein, avec aussi une image plutôt subie qui est les problématiques de sécurité, hein, qu'on trimballe depuis des décennies. On a retrouvé une de Paris Match qui date de 71, où c'était marqué le Grenoble, la ville de la peur. Ouais, c'était en première page, où en 2008, il y avait déjà la première page de Libé sur Grenoble-Chicago. Bon, après, ça tourne de ville en ville, mais ça, c'est une image subie, mais l'histoire de la ville s'était petit à petit réduite à l'innovation et l'innovation high-tech, alors que ce qui me semble être la caractéristique de la ville, c'est cette capacité à se mélanger. C'est une porosité entre les différents milieux, et finalement, c'est ça qui crée de l'innovation, et de l'innovation du coup sociale, de l'innovation technique aussi, mais de l'innovation qui représente les défis d'aujourd'hui.
Parce que vous êtes vous-même ingénieur à la base, et du coup, ce mélange avec l'écologie, c'est pas inné, ça vous est venu plus tard, en fait, après votre formation d'ingénieur.
Oui, carrément. Moi, j'ai travaillé 18 ans dans l'industrie, et mon engagement politique, il est assez tardif. C'était à 37 ans, en 2009-2010, que je me suis engagé. Donc c'est assez tardif. Le goût de l'émerveillement face à la nature faisait partie de ma vie intime, mais mes sujets publics étaient plutôt des questions de justice sociale, hein, d'émancipation, d'éducation populaire et de justice sociale, d'organisation de la vie économique. C'est plutôt ça qui m'intéressait. Le croisement avec l'écologie, je l'ai fait dans ma tête de citoyen, hein, au début des années 2000, et mon engagement encore 10 ans plus tard. Mais pour revenir à la question de la technologie et de l'écologie, toute technologie a une source d'inspiration. Hein. Donc si la source d'inspiration de la technologie, c'est la course au profit, alors vous allez avoir une technologie qui est au service du profit et puis qui va faire un peu de greenwashing parce que ça va bien et qu'il mesure les dangers, hein, de la révolution potentielle qu'il y a derrière la question du défi climatique.
Le modèle de la Smart Cities, justement, c'est la recherche du profit.
Bon, on est assez en décalage. On on utilise les mots, hein, après c'est il faut jouer avec les mots, donc on utilise ces mots, mais pour dire autre chose. Pour moi, c'est pas la ville qui est intelligente, c'est les habitantes et les habitants qui sont intelligents. Voilà, donc on va pas nous mettre plein de capteurs partout et puis finalement nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, comment il faut qu'on vive, comment il faut qu'on se déplace. Non, ce qui est important, c'est de cultiver notre liberté, nos liens humains. On le sent bien là, depuis un an avec le Covid, ce qui nous manque atrocement, c'est le lien avec l'extérieur, la nature, le lien avec les autres, le lien avec la culture, le lien avec la capacité de trouver du dialogue, de lutter contre l'isolement. Donc c'est ça qui est important. Et donc la techno peut être évidemment utile, mais si elle est au service d'une inspiration qui est la justice sociale et le défi climatique.
Vous parlez de populations du coup qui s'engagent. Justement, moi, ce que je constate à Grenoble, c'est que c'est beaucoup les jeunes qui s'engagent pour l'écologie. Il y a énormément d'initiatives de jeunes. Et est-ce qu'on peut dire que l'écologie grenobloise, elle repose principalement sur sa jeunesse et le fait qu'il y ait énormément d'étudiants qui sont marqués par ces sujets-là?
À coup sûr, il y a un changement de génération majeur. Que ça soit avec Greta Thunberg, que ce soit après la démission de Nicolas Hulot, que ce soit pour les marches pour le climat, tous les mouvements de Youth for Climate, on accueillait lors de la cérémonie d'ouverture Nathan Ménétrier, qui est grenoblois, qui a fait ses études à Grenoble et qui est maintenant conseiller auprès du secrétaire général de l'ONU pour le climat. Donc clairement, les jeunes bousculent la donne. Notamment dans le rapport à la vie économique. C'est que ma génération, on était des produits, on devait s'insérer dans le système. Le message, c'était s'insérer dans le système. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Je veux dire, oh, c'est quoi votre système ? Là, la conférence d'où je viens, Philippe Mérieux avait une phrase très, très belle. Il disait, partout, on est dans une société du chiffre. Or, on ferait mieux de déchiffrer la société. Donc là, on est au cœur du sujet et je crois que ce que nous amène aujourd'hui la jeunesse, qu'elle soit étudiante ou pas, c'est cette volonté de déchiffrer la société et de dire comment on a envie de vivre, nous. Et par ricochet, ça remonte. Moi, je le constate tout le temps et je l'ai constaté dans mon mandat. Ça remonte sur les générations du dessus parce que, évidemment, ça interpelle les parents qui sont
insérés. Ça fait un effet boule de neige, finalement.
Il y a un effet boule de neige en partant de la jeunesse. Donc, c'est une source d'espoir.
C'est une sorte de rétroalimentation comme ça.
Ouais.
Alors, justement, cette jeunesse qui vous a pour partie élu en 2020, à nouveau la liste Grenoble en commun, elle attendait peut-être quelque chose. C'était justement cette promesse de transport gratuit pour les plus précaires ou le week-end. Aujourd'hui, la SMAG, la société qui exploite le réseau de transport, vous en avez perdu la présidence, elle est déficitaire. Comment ce dossier a pu vous échapper?
C'est une bonne question, ça, c'est une torture. Comme vous demandez là, pourquoi est-ce que vous avez perdu après avoir gagné les élections? C'est la vie démocratique.
Vous auriez pu agir avant.
Déjà, dans le mandat précédent, nous avions, nous, l'objectif d'avoir la gratuité pour les 18-25. Et ce n'était pas une question d'idéologie, c'est que quand on regarde aujourd'hui les budgets, c'est sur les jeunes que la question de la mobilité pèse le plus. Donc il y avait une question sociale, et puis il y avait une deuxième dimension, c'est que c'est au moment où on s'émancipe de sa structure familiale, qu'on prend des habitudes, et donc ça nous semblait intéressant que ces habitudes soient des habitudes qui soient tournées autour de quel est mon besoin de mobilité, comment j'y réponds, plutôt que je me précipite pour avoir une voiture et puis après je vois. Je me précipite pour une voiture et après je vois, ça c'était ma génération. Donc là, ça nous semblait intéressant. On a réussi à diviser par deux les tarifs, baissant de 5 euros par année les trois premières années. On est arrivé aux tarifs qui sont les moins chers de France pour les 18-25, mais une fois qu'on était là, on n'avait plus de majorité pour aller plus loin. Les partenaires politiques au sein du syndicat de mobilité ne voulaient pas aller plus loin pour diverses raisons. Certains parce qu'ils pensent que ce n'est pas une bonne chose. Certains parce qu'ils pensent pour des raisons électorales, il ne fallait pas nous donner le fait que oui, on avait réussi cet engagement. Pour plein de raisons diverses, c'était comme ça. En abordant les choses dans la campagne de 2020, on s'est dit, on voit que là, il y a un blocage. Et de toute façon, nous n'aurons pas la majorité au sein du syndicat de mobilité. Hein, c'est un syndicat qui est partenarial. Donc, on s'est dit, on va pousser la gratuité pour toutes et tous le week-end et puis la gratuité pour les plus précaires tout le temps. Ça semblait consensuel. On avait pris des attaches avec les différents groupes politiques. Ça semblait consensuel. Bon, la réalité est que après les élections, vous savez que les élections métropolitaines et sont des élections de deuxième niveau, donc c'est pas la population qui élit. Et donc, on peut se retrouver dans une configuration qui ne reflète pas ce qui a été choisi par les électrices et les électeurs, mais ce qui représente une autre forme de démocratie de deuxième niveau. Donc, c'est ainsi. Maintenant, c'est à nous de trouver les moyens, à la fois structure politique et société civile, hein, pour exiger d'avancer. Ça avance. Hein. À Montpellier, ils ont avancé. À Strasbourg, ils ont avancé. À Lyon, ils ont avancé. À Nantes, ils ont avancé. Donc c'est pas impossible du tout dans la période, et c'est pas partisan, hein, c'est qu'il n'y a pas que des écologistes qui ont poussé ces mesures-là, c'est le cas à Lyon et à Strasbourg, mais à Strasbourg et à Nantes et à Montpellier, c'est des élus des municipalités qui sont menées par des socialistes avec des écologistes dedans, donc il y a normalement un chemin politique pour y arriver.
Moi j'aurais aimé rebondir justement sur ce côté plus précaire de certaines personnes. Quand je vois l'écologie à Grenoble, il y a aussi un côté, en tout cas de la manière dont je le ressens, un côté très divisé, on va dire. C'est une écologie qui a une façade très culturellement développée, très intellectuellement développée, et j'ai peur que ce soit une écologie qui scinde les gens en deux, avec une partie de la population qui serait trop précaire ou pas assez engagée sur ces questions-là, et qui serait oubliée, sciemment ou non, sur ces problématiques écologiques.
Ça, c'est une image qui est, de mon point de vue, nocive, qui ne correspond pas à la réalité, je vais y venir, mais qui est même nocive dans notre imaginaire. Les défis d'aujourd'hui, il faut bien comprendre que le dérèglement climatique, il frappe d'abord les plus précaires.
Mais vous comprenez que c'est plus difficile.
Les pollutions, elles frappent d'abord les plus précaires.
C'est plus difficile de s'intéresser à l'écologie quand on a la première chose à laquelle on pense, c'est de remplir le frigo de manière générale.
Je ne partage pas cela. Où que vous soyez, en fait, vos problématiques sont des problématiques de vie quotidienne, mobilité, logement, alimentation, accès à la santé, accès à l'éducation, accès à la culture. Tout ça, ça intéresse tout le monde. Dans les besoins humains, il n'y a pas, tiens, on va d'abord commencer à se nourrir et puis après, on essaiera de faire autre chose. Il y a 2 milliards de la population qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Et pourtant, malgré les difficultés qui sont d'une intensité sans commune mesure avec celle qu'on peut vivre, ce sont des êtres humains pleins d'aspirations, pleins de spiritualité, pleins de liens humains, qui ont aussi un rapport au corps, qui ont un rapport à la culture, qui font société. Donc il n'y a pas, on ne remplit pas d'abord le frigo avant de se poser la question de la suite.
Oui, bien
sûr. On fait tout ensemble. Et là-dessus, si vous regardez l'écologie que nous mettons en place, c'est une écologie qui est populaire. L'écologie, c'est quoi ? C'est la justice sociale, la justice environnementale, la démocratie. Dans sa définition même étymologique, c'est comment les êtres humains vivent entre eux, comment ils agissent en société et comment cette société agit avec son environnement. Donc il y a bien ces 3 piliers. De social, environnemental et démocratique, c'est inscrit dans l'étymologie.
C'est sûr, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Mais par contre, vous comprenez que pour certains, ça, on peut croire que c'est un bien de luxe, l'écologie.
Mais non. C'est quand on fait des vergers, dans chaque secteur de la ville, quand on fait des îlots de fraîcheur. Ceux qui bénéficient en premier des îlots de fraîcheur, ceux qui s'y investissent, ceux qui les utilisent aussi. C'est ceux qui, chez eux, ont des logements qui sont mal isolés. Donc, c'est leur bien commun, leur patrimoine commun, c'est ces îlots de fraîcheur à l'extérieur. Quand on fait les repas végétariens et bio dans les cantines, c'est 2 repas végétariens par semaine, c'est 2500 enfants aujourd'hui, un quart des enfants qui mangent à la cantine, qui mangent pour 78 centimes d'euros.
Mais donc le soir, c'est à la maison, c'est très concret. Il n'a pas la chance de manger bio avec sa famille.
Ah ben, le soir à la maison, effectivement, ils vont vivre des situations de précarité économique. Et donc, on le sait, il va y avoir plus de malbouffe, plus de plats industriels, plus de viande, plus de tout ça. Hein. C'est tout ça qui fait qu'on va retrouver avec, si vous avez aujourd'hui un niveau brevet et moins, vous avez 3 fois plus de risques d'être en situation d'obésité que si vous avez un bac plus 4 et plus. Donc il y a une inégalité sociale forte à compenser. Et le service public, il est là pour compenser l'écologie politique, hein, il est là pour corriger cela. Quand on fait des tarifs dépendant des revenus dans la mobilité, c'est bon pour la planète et c'est bon pour la justice sociale. Quand on a multiplié par 7 le tarif d'accès solidaire de l'électricité, hein, il y avait 1000 personnes qui avaient droit, qui accédaient à leurs droits en 2014, il y en avait 7000 2 ans plus tard, c'est de l'écologie populaire. Quand on a fait la tarification sociale de l'eau, c'est de l'écologie populaire. Donc c'est sûr qu'on sort d'une logique qui était la logique qui a qui était issu des Trente Glorieuses et qui a été porté pendant très longtemps par le Parti Socialiste, qui était finalement, il faut de la croissance. Et puis, une fois qu'il y aura de la croissance, on pourra redistribuer à ceux qui n'ont pas bénéficié directement. On n'est plus dans ce paradigme-là. Mm-hmm. Pourquoi ? D'abord, il n'y a plus de croissance depuis déjà 30 ans. Mm-hmm. Que cette croissance, en fait, elle attaque l'environnement, donc elle détruit notre écosystème. Et qu'en plus, la redistribution, on voit bien que ça ne fonctionne pas. La théorie du ruissellement, ça ne fonctionne pas. Il y a de plus en plus de milliardaires. Et il y a aujourd'hui 8 millions de personnes qui vivent avec l'aide alimentaire en France. Donc ce schéma-là est un schéma qui ne fonctionne pas. Il faut mêler la question de justice sociale et la question environnementale.
D'accord.
Et par rapport à cette question-là, justement, il y a les deux quartiers de la Villeneuve qui ont reçu le label premier éco-quartier populaire de France.
Ouais.
Du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ces quartiers-là ? Qu'est-ce que ça implique pour ces habitants ?
Ben, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, c'était éco-quartier. Le premier éco-quartier de France, c'était la caserne de Beaune, hein, sous l'impulsion d'un adjoint d'ailleurs écologiste. C'était plutôt dans du neuf. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois, hein, une des premières fois, qu'on est dans un quartier déjà existant et qu'on se lance là-dedans en disant, voilà, l'enjeu, c'est pas de faire du neuf tip-top, parce qu'à la vitesse à laquelle on renouvelle le parc de logements, ça colle pas. On renouvelle à peu près en France 1% du parc de logements chaque année. Donc l'important, c'est comment on réhabilite les quartiers existants. Et sur la Villeneuve, un des facteurs clés pour moi qui va transformer les choses, c'est d'avoir un lac baignable à la Villeneuve. Ça fait partie des projets qui seront marquants. Hein, l'accès à l'eau, on vit là, on est au printemps, c'est cool. Mais rappelons-nous que les scientifiques nous disent que là où nous vivons aujourd'hui, avec 3 jours de canicule en moyenne par an, nous serons en 2050 à 46 jours de canicule en moyenne par an. Donc la capacité à accéder à des îlots de fraîcheur, à accéder à l'eau, va être un enjeu social majeur.
D'autant plus pour que Grenoble est une ville où il fait chaud l'été, très chaud même parfois.
Ouais. Naturellement très chaud et de plus en plus.
Et justement, on posait la question tout à l'heure à deux de vos adjoints, une conseillère municipale. Cette réputation de Grenoble en tant que ville cuvette, irrespirable, est-ce que le titre de capitale verte européenne peut permettre de nuancer un peu cette image-là et comment ?
Une cuvette, on va avoir du mal à pousser les montagnes quand même, hein. C'est assez factuel. On est entouré de montagnes, donc nous sommes une cuvette. Si nous regardons par contre les questions de qualité de l'air, la qualité de l'air s'est améliorée de plus de 30%, hein. On a baissé les taux de pollution de plus de 30% en l'espace de 10 ans, et nous avons encore un chemin majeur à faire pour atteindre les seuils de l'Organisation mondiale de la santé en 2030. Nous nous sommes fixés ces seuils comme objectif en 2030. La bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne, qui avait des seuils plus hauts, vient de changer, là, il y a quelques semaines, et s'est fixée elle-même, a dit « Ok, nos seuils, ça ne va pas, il faut aussi prendre les seuils de l'OMS, donc il faut continuer cette trajectoire de dépollution de l'air. »
Mais du coup, exactement, qu'est-ce que ça signifie pour Grenoble, le fait d'avoir été élu capitale verte européenne 2022 ?
Pour moi, il y a deux choses là-dessus. La première, c'est qu'on ne peut pas regarder l'avenir en ayant juste peur de ce dérèglement climatique. La peur, c'est pour l'essentiel des gens un vecteur, nos réactions de notre cerveau reptilien, c'est la paralysie, la fuite en avant, la soumission. Et c'est, ça fait du combat uniquement quand le danger qui est face à vous, vous vous sentez à la bonne taille. Et là, il n'y a pas grand monde qui se sent à la taille du dérèglement climatique. Donc la peur, pour moi, n'est pas un vecteur d'action suffisamment puissant. Il faut s'appuyer sur des choses positives. Et donc, capitale verte européenne, ça vient d'abord récompenser, puisqu'il y a 12 critères qui ont amené la Commission européenne à nous choisir. Ça va d'abord récompenser ce qui a été fait. Donc, pour avancer, il faut aussi être fier de ce qu'on fait ensemble, gagner en confiance. Et ça met tout le monde dans un état d'esprit positif pour l'avenir. Et ça, c'est très important.
C'est une responsabilité pour l'avenir.
Oui, et ça permet d'embarquer tout le monde en disant, voilà, on y a notre place, on peut relever ce défi ensemble. Et puis, il y a un troisième volet qui est que ça permet d'obtenir peut-être des financements plus importants. Et c'est pour ça que la présence du vice-président de la Commission européenne était importante là. Et d'ailleurs, c'est un des points qu'il a souligné. Et puis surtout, on a fait pour ces 12 défis, on a fait des défis à adopter. Donc que vous soyez un individu, que vous soyez un collectif, une asso, une entreprise ou une institution, vous pouvez adopter un de ces défis et donc vous mettre, vous, en mouvement. Et ça crée, pour moi, on s'entraîne à être au niveau. Hein. Notre humanité, notre génération vit un défi qui est une première dans l'histoire de l'humanité. Donc il faut s'entraîner à être à la hauteur.
Et du coup, justement, à propos de ça, le fait que Grenoble ait été élu en capitale verte, est-ce que ça donne Grenoble comme exemple pour d'autres villes? Par exemple, on sait que Michel Rubirola, l'ancienne maire de Marseille, a dit que Grenoble était un modèle pour Marseille. De quelle ville est-ce que Grenoble s'inspire et qu'est-ce que Grenoble peut inspirer à d'autres villes qui entendent développer leurs capacités écologiques?
Nous, on s'inspire de villes dans le monde entier. Hein. Hier soir, on était avec la ville de Chicago, par exemple, hein, autour du développement communautaire et des budgets participatifs. Donc on prend nos sources d'inspiration un peu partout. On avait été à Copenhague pour regarder ce qui se faisait sur les pistes cyclables. On a été à Toronto regarder ce qui se faisait autour des bibliothèques. Et c'est à la suite de cela qu'on a rendu nos bibliothèques gratuites. Donc on s'inspire de plein de choses qui se passent partout dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que notre spécificité, le fait qu'on ait été la première grande ville écolo en France, fait que ça crée des ponts et il y a plein de gens qui viennent discuter avec nous. Donc ça, du coup, ça nous fait des sources d'inspiration un peu partout. Et peut-être qu'on est aussi une source d'inspiration. En tout cas, les maires là, de toutes les grandes villes écolo sont des gens qui sont venus travailler avec nous, réfléchir à quelle avait été notre réflexion politique, la façon d'aborder l'exercice du pouvoir pour que l'écologie sorte de son histoire en France, qui était une histoire plutôt de lanceur d'alerte et de contre-pouvoir, et change de dimension et se dire nous sortons de cette dimension-là, maintenant nous sommes capables de fédérer une majorité derrière un projet dont le pivot est l'écologie politique.
Alors c'est ça la question justement, Yannick Jadot en parlant en début de semaine, il appelait à fédérer un candidat commun, de s'asseoir autour d'une table avec la gauche, de trouver un candidat à investir. Est-ce que vous serez autour de la table?
Oui, moi je sens cette responsabilité, évidemment, hein. On est nombreux là dans cet espace de gauche et écolo. D'abord, savoir, mais tout le monde le sait, que s'il y a plusieurs candidats, nous ne serons pas en capacité, alors que nos points communs sont extrêmement nombreux, nous ne serons pas en capacité de gagner la présidentielle 2022 et donc de mettre en acte un projet d'écologie politique, hein, de justice sociale et de justice environnementale. Donc il y a cette responsabilité-là, évidemment, notamment pour ceux qui ont exercé le pouvoir comme moi. C'est une expérience qui n'est pas pléthorique, hein, au sein de cet espace-là. Donc on y travaille. On y avait déjà travaillé pendant le premier confinement de façon assez large. Il y a eu pas mal d'échos médiatiques de tout cela. Depuis, c'est plutôt à bas bruit. Parce qu'il faut prendre le temps, et le temps qui vient là, c'est un temps d'élections départementales et régionales. Enfin, on va voir si elles sont maintenues, mais en tout cas ce temps là il ne faut pas le louper non plus, parce que c'est ça qui change aussi la donne au quotidien, hein, pour les trains express régionaux, pour les politiques de soutien aux associations environnementales ou de lutte pour les droits des femmes, pour l'action économique, pour changer l'agriculture, pour les politiques de formation. Les élections départementales et régionales vont être importantes.
Et du coup, ces régionales-là, on a vu par exemple dans les Hauts-de-France que la gauche s'était rassemblée sous une même bannière. Est-ce que vous pensez que c'est possible de réitérer ce rassemblement au niveau national dans d'autres régions, ou est-ce que c'est l'exception qui va confirmer la règle au final?
Alors, d'abord, dans les Hauts-de-France et dans quelques autres régions, le risque RN est tellement grand que pour moi, pour nous, c'était une question de dignité d'arriver à cet accord. À l'endroit où, en fait, la gauche et les écologistes ont été balayés en 2015, moins de 5% pour notre tête de liste qui était Sandrine Rousseau aux élections régionales en 2015, à peine mieux pour les candidats du Parti Socialiste et les autres candidats de gauche. Donc là, c'est une question de dignité, de se dire que le risque RN, c'est pas que, et le risque trumpiste ou populiste, c'est pas que pour le Brésil, les États-Unis, la Hongrie, l'Autriche et tout, hein, ça peut arriver chez nous. Le reste, partout ailleurs, je crois qu'il y a une affirmation de cette volonté de travailler ensemble. Est-ce que c'est au premier tour? Est-ce que c'est au deuxième tour? Ça va dépendre des endroits, ça dépend des histoires de chaque région. En tout cas, la volonté marquée de travailler ensemble, elle est là, et elle est là partout, hein, je crois.
Et est-ce que vous pensez du coup qu'en en 2022, le vote utile maintenant, il doit être écolo? Est-ce que maintenant, c'est, ce vote utile-là, il doit être vers les écolos? Parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous et que c'est ça qu'il faut mettre en avant maintenant.
Moi, j'en suis convaincu. Mais ça va dépendre d'abord aussi de la mobilisation de la jeunesse. Parce que la jeunesse, vous disiez tout à l'heure qu'elle
avait... Vous pensez que le vote jeune, il va être écolo?
Ah, le vote jeune, il est là dans les dernières élections, il est écolo. Mais pour l'instant, il y a très peu de vote jeune. Donc l'enjeu pour nous, C'est pas tant que le vote jeune soit écolo, il est assez largement écolo. L'enjeu, c'est que les jeunes se déplacent. Mmh. Aux élections municipales, les jeunes se sont assez peu déplacés, finalement. C'est
et
ça qui a fait cet effondrement. D'ailleurs, dans la journée, après 16h, les bureaux de vote étaient vides au moment où... Donc là, il faut susciter un projet positif. Nous, on construit un projet qui n'est pas de dire juste il faut éviter le duel Macron-Le Pen. Ça, c'est pas positif. Vouloir éviter une catastrophe. Bon, se dire que le président de la République actuel, il n'est pas la digue face au RN. Il est toujours, pour l'instant, la meilleure digue tant que nous, on est éparpillés façon Pulse. Il est la meilleure digue, mais il n'est pas une digue qui est assurée de marcher. Cette digue se fracture par ses choix, par le brouillage des valeurs qu'il fait depuis quelques mois, avec ses attaques répétées qui viennent fracturer sur des questions identitaires. Il va sur les terres de l'extrême droite, poser les débats qui sont les débats de l'extrême droite. Quand vous posez les débats et vous nourrissez le débat public avec des thèmes d'extrême droite, à la fin, à qui ça profite? Ça profite à l'extrême droite. Alors, ou à des replis identitaires et à l'islam politique, mais à rien au milieu.
Justement, à ce propos, vous parliez sur plusieurs plateaux télé de brouillage des valeurs. Moi, j'aurais aimé savoir quelles sont ces valeurs brouillées.
Je prends quelques exemples. Que le ministre de l'Éducation nationale choisisse pour la rentrée de lancer comme débat la question de la tenue républicaine et du fait qu'il ne faudrait pas que les filles puissent montrer leur nombril pour aller à l'école, pour moi, c'est un brouillage de valeurs. Quand le ministre de l'Intérieur dit qu'il est choqué de voir des rayons halal ou des rayons cachers dans les supermarchés, pour moi, c'est un brouillage de valeurs. Quand la ministre de l'Éducation nationale dit qu'il faut... que l'islamo-gauchisme est un terme scientifique et qu'elle va commander au CNRS un rapport sur la pollution islamo-gauchiste à l'université, pour moi, c'est un brouillage des valeurs. Et c'est d'ailleurs fait recadrer de point de vue par le CNRS et par toutes les autorités académiques. Donc c'est ça, ce thème. Quand vous voyez le projet de loi séparatisme, c'est un brouillage des valeurs.
Mais il y a quand même eu l'initiative de la Convention citoyenne pour le climat qui montre quand même qu'au gouvernement, il y a ces idées-là qui sont présentes, mine de rien.
L'histoire de la Convention citoyenne climat, ce n'est pas le gouvernement.
Non, mais
l'histoire de la Convention citoyenne climat, c'est Cyril Dion, on en avait parlé. Au moment des Gilets jaunes, il y a eu plusieurs initiatives. Nous, j'ai fait partie des quelques-uns qui ont lancé la démarche des cahiers de doléances avec l'Association des maires ruraux de France et donc Grenoble. Et ensuite, nous avions débattu, c'est une idée de Cyril Dion et de quelques autres, de se dire proposer au président de la République une sortie par le haut avec cette Convention citoyenne climat. Oui. Avec un risque qui était identifié, qui était ou bien il pouvait s'en servir pour lancer, après les échecs électoraux, lancer un petit référendum qui va bien, qui le remette dans la course, ou bien qu'il s'asseye sur les conclusions de cette Convention citoyenne climat. Moi, je trouve que c'est une initiative qui est excellente, qui montre la richesse de la démocratie. Ces gens ont été tirés au sort, ils représentent la diversité française.
Et vous saluez le processus démocratique.
Le processus, on en avait parlé avec Cyril, c'est un processus qui, je crois, a fait ses preuves.
Le problème, c'est les débouchés.
Le problème, c'est que là où le gouvernement s'était engagé à transmettre sans filtre, à reprendre sans filtre ses propositions, là où même en juin, il les a accueillis à l'Élysée pour leur dire, voilà, à part trois jokers, donc on ne touche pas au pognon, c'était le truc non à la répartition des richesses, et puis le 110 km/h, et je ne sais plus quel était
les
son
avions.
Troisième point. Le reste, en fait, il s'est assis sur ce qu'il leur avait dit, sur les engagements qu'il avait pris. Et il a choisi un vocabulaire qui était aussi un vocabulaire très violent, autour des Amish, suivi avec les ayatollahs du ministre de la Justice, etc. etc. Donc cette trahison-là, elle est très violente pour la démocratie aussi, parce que cette Convention citoyenne pour le climat avait fait lever aussi une aspiration démocratique qui est battue en brèche. J'étais avec eux, là, et avec Cyril, dimanche dernier à Paris, à la manif. C'est sûr que quand on sort d'un processus aussi riche et qu'on voit que c'est tout détricoté par le gouvernement, c'est plutôt un recul du coup qu'une avancée.
Je voudrais revenir surtout sur votre parcours. Vous avez fait beaucoup d'associatifs et je me demandais qu'est-ce que pour vous ça représente l'associatif et est-ce que c'est essentiel d'intégrer ça dans un parcours personnel, notamment au niveau des jeunes, notamment au niveau de l'écologie aussi, pour pouvoir ouvrir des horizons et contribuer donc à la vie démocratique.
Dans mon parcours, à moi, d'émancipation, c'est essentiel. J'ai commencé, assez jeune dans les conseils d'administration de collège et de lycée. J'ai commencé aussi au lycée avec du soutien scolaire auprès d'enfants de familles défavorisées à domicile. Ça m'a enrichi énormément avec Amnesty International aussi, avec la CAT. Et puis après, quand j'étais plus grand, adulte, avec l'arrivée des enfants et toutes les mobilisations autour des enfants, du réseau Éducation sans frontières et puis de la vie autour de l'école. Ça a été pour moi un vecteur d'action, de mise en mouvement, de liens, de débats, de richesse de rencontres.
Qu'est-ce qui est fait par la ville de Grenoble justement pour pousser vers cet associatif?
On soutient plus de 700 associations, donc on finance ces plus de 16 millions d'euros qui sont versés aux associations. Donc il y a un soutien extrêmement fort. Il y a aussi une mise en lumière avec notamment le forum des associations qui est l'occasion de faire vivre cela. Et puis après, il y a des actions plus thématiques autour du sport, par exemple, autour de la culture, mais des champs plus spécifiques. Mais il y a un énorme soutien à la vie associative qui est pour moi, c'est corps intermédiaire, c'est fondamental et structurel dans notre vie publique. Et c'est un des autres points qui est un point de clivage avec le président actuel qui est un pouvoir jupitérien. Il y a lui et il a voulu écraser tout ce qui était corps intermédiaire au milieu.
Il y en a beaucoup qui sont inspirés justement par votre parcours aujourd'hui, par la politique que vous menez à Grenoble et la branche de l'écologie que vous incarnez. Je pense notamment aux Jeunes pour Piolle, ce collectif. Il y a aussi, c'est la plateforme Une certaine idée de demain qui a été lancée autour de vous. Moi, je me posais la question, qu'est-ce qu'on ressent quand on est présidentiable?
J'ai une phrase qui m'habite depuis longtemps, bien avant mon engagement politique, c'est que l'éthique, c'est d'être à la hauteur des événements qui vous font face. Donc, je n'avais pas prévu particulièrement ça dans mon parcours de vie, l'engagement politique, mais je l'ai fait avec plaisir. D'abord, sur ce refus de la compétition comme horizon de vie, nos vies ne sont pas en compétition. Il n'y a pas de classement à la fin quand on meurt, en disant, tiens, vous avez été le 4 milliardième dans la population de l'humanité. Donc, il n'y a pas de classement. Nos vies ne sont pas une compétition. Il y a des espaces pour ça, le sport, il y a plein d'endroits où on peut faire de la compétition, mais nos vies ne sont pas des compétitions. La croissance du PIB n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie sur Terre. La vie économique, elle est au service des habitants, au service du bien commun, au service du respect de l'environnement. Et puis la lutte contre les inégalités, ce désir d'humanisme et du fait que chacun puisse s'épanouir, c'est pour moi fondamental et je ne peux pas juste être dans une petite bulle en disant pour moi ça va bien, mais bon, le reste advienne que pourra. Donc cette volonté d'engagement, elle est là. Je suis convaincu depuis le début de mon engagement que l'écologie populaire est quelque chose qui peut être un débouché pour une majorité culturelle. Et cette majorité culturelle, elle s'élargit parce que ce système néolibéral et néolibéral à tendance autoritaire, il crée de plus en plus de perdants. Et puis, même chez les gagnants d'aujourd'hui, une incapacité pour eux à garantir à leurs enfants une vie qui soit aussi bonne que la leur, ou en tout cas une vie qui soit digne. Et donc, ça peut créer une nouvelle alliance entre les milieux populaires et des élites, ou en tout cas des couches supérieures, qui sont en capacité de travailler ensemble pour changer de société.
Si vous arrivez un jour à l'Élysée, c'est le projet politique que vous porterez?
Pour l'instant, je suis focalisé pour les régionales. Les écologistes, ils choisiront leur candidat au mois de septembre. Donc, on y va étape par étape. C'est peut-être mon caractère d'ingénieur qui fait que j'ai des plans projets. Effectivement, et je suis ces étapes les unes après les autres. Là, à Grenoble, il se passe plein de choses extrêmement riches, comme cette biennale des villes en transition, comme cet après-midi avec Émergence. Donc, il se passe plein de choses foisonnantes qui nous nourrissent aussi et qui nous passionnent et qui nous engagent.
Et peut-être pour terminer, du coup, par rapport à cette biennale, est-ce que vous pensez qu'elle pourra peut-être se populariser ailleurs en France, maintenant que le côté écologique a vraiment pris du pouvoir dans les grandes villes ?
Oui, elle est déjà populaire partout en France. Il y a des dizaines de villes qui viennent échanger avec nous. On avait, il y a 2 ans, physiquement accueilli plus de 40 délégations étrangères également. Donc, en pratique, c'est déjà une plateforme d'échange extrêmement riche. Et je ne doute pas que ça continue parce qu'effectivement, les choses bougent et ont bougé. Dans les grandes villes, ça fait beaucoup de bruit. Mais aussi dans des villes moyennes, ici à Grenoble, à Saint-Égrève, à Visil, à Hébin, à Champs-sur-Drac, à Champagné, un peu plus loin de nous, dans les terres froides, dans le pays voironnais, à Charnècle, dans des villes de banlieue parisienne, à Arcueil, à Savigny, à Colombes. dans des villages, dans mon Pays basque natal. Là, j'ai rencontré des maires au Pays basque et des maires de villages aussi dans le Béarn. Donc ça bouge un peu partout.
Donc l'écologie, c'est le futur, on l'a compris. Je pense que ça peut être le mot de la fin pour cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir répondu
à
nos questions,
Eric Piol.
Et puis pour ceux qui vont rester branchés sur News FM, on va passer un peu de musique et on se retrouve plus tard. Merci.
Ok, merci beaucoup.